À l'écoute de la 103.8 FM, Lama Info Matin, c'est votre café matinal. Ce matin, nous avons autour de nous des invités, deux acteurs qui ont différents titres. Hein. Nous avons quelqu'un qui est analyste politique, l'autre est acteur de la société civile. Tous ensemble, on va essayer d'opiner sur les grandes tendances rendues publiques de façon provisoire par la Sénat samedi dernier. Et au thème de ce que la Sénat nous a dit, il faut comprendre simplement que ce sont les deux partis politiques de la mouvance présidentielle, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, qui remportent l'ensemble des 109 sièges de la 10e législature. Retenez, l'UPR s'en sort avec 42,15%, soit 60 sièges, dont 16 femmes bonus. Le Bloc républicain, lui, obtient 36,64%, soit 49 sièges, dont 8 femmes en bonus. Eh bien, les formations politiques, les démocrates, Force Corée pour un Bénin émergent et Mouel Bénin ont obtenu chacun 16,14%, l'autre 1,21%, et la troisième force politique, 4,96%. Le taux de participation est de 36,73%. Un peu en baisse par rapport à 2023. En 2023, c'était 37%. Ce matin, on va opiner d'abord sur le taux de participation, sur les forces de chaque parti politique, surtout de la mouvance présidentielle, à savoir UPR et BR, et également revenir en quelque sorte sur les partis qui n'ont pas pu glaner à travers les 24 circonscriptions électorales, les 20%. Segla Sylvain, lui, il est acteur de la société civile. Il est notre invité ce matin. Monsieur, bonjour, bienvenue.
Bonjour, monsieur Allo.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Non, c'est à moi de vous remercier.
D'accord. Votre vis-à-vis est Edgar Sejro. Il est un analyste politique. Edgar Sejro, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci de venir échanger un peu avec nous et rester avec les auditeurs.
C'est moi.
Alors, on connaît les résultats provisoires rendus publics par la Sénat samedi dernier. Le taux de participation, 36,00%, qui en baisse par rapport à l'année 2023. Ça vous dit quelque chose? Sylvain Segla, acteur de la société civile.
Merci, ça me dit beaucoup de choses. Parce que le président de la Sénat a donné, selon lui, certaines raisons. Mais vous savez, le taux de participation, tel que ça se passe là, ne va jamais s'améliorer au Bénin.
Et pourquoi vous le dites?
Je le dis parce que convertir la liste, je vais dire, une liste des personnes vivant au Bénin, âgées de 18 ans, d'office en liste électorale, c'est ça surtout le problème. Mm-hmm. Pour donner les résultats, on parle d'inscrits. Le nombre d'inscrits au scrutin. Vous voyez? Alors qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On demandait aux gens de venir s'inscrire pour l'élection en cause. Et les gens, par volonté, s'inscrivent pour les élections. Et on leur délivrait une carte électorale. Si on demandait ça aujourd'hui, allons-nous avoir 7 900 et quelques.
Au fait, c'est pour améliorer les choses qu'il y a eu cette innovation.
Quand vous avez une amélioration, vous faites... Attendez, tu parles d'amélioration. Depuis c'est l'avènement de cette liste où on convertit automatiquement. On n'a jamais atteint 40%. Faisons, revenons. C'est l'essentiel, c'est de voir si ceux qui vont s'inscrire là sont effectivement béninois là. Et maintenant, et contrôler ça avec la liste de ANIP là. C'est simple. Ou bien on demande avant de s'inscrire pour les élections, entre autres pièces à amener le CIP. Vous voyez? Là, on saura ceux qui sont vraiment inscrits pour les élections. Ici, c'est les Béninois, tous les Béninois âgés de 18 ans au moins. C'est tout.
D'accord. Est-ce à dire que vous rejoignez Sylvain Segla qui nous fait comprendre que la manière dont les choses se passent aujourd'hui concourt à ce que nous constatons en rapport avec la baisse du taux de participation, Edgar Sadjiro?
La manière dont ça se passe aujourd'hui s'appelle la réforme. Et réforme oblige à ce que notre liste soit transformée en liste électorale de façon tactique ou tacite. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et moi, à mon avis, ce taux est dû au travail politique sur le terrain. Quand je parle de travail politique, vous l'avez comparé tout à l'heure en 2023. En 2023, les militants de LD étaient mobilisés pour soutenir leurs députés. Aujourd'hui, je suis sur le terrain, j'ai constaté carrément qu'il y a beaucoup de militants LD qui sont restés à la maison, qui n'ont pas pu aller au vote. Ça peut jouer sur le taux de participation rapidement. Donc, voilà un peu, je veux dire, pour ce taux de participation, si nous nous rapprochons un peu, avec 2023, nous allons comprendre avec les résultats que nous avons aujourd'hui, que les militants de chaque parti politique se sont attachés à leur parti politique et c'est les partis politiques qui ont mobilisé leurs membres à aller voter et non c'est-à-dire l'ensemble du pays. Tout le pays n'était pas mobilisé à aller voter. C'est seulement les partis politiques qui sont prêts, qui répondent aux réformes, aux normes qui ont été préparées pour aller aux élections où ils ont invité leurs membres à aller. Donc voilà.
Est-ce qu'on va comprendre à travers vos propos que les Béninois ne se sont pas retrouvés dans le vote du dimanche 11 janvier 2026 ou bien c'est une partie de la population qui s'est retrouvée là-dedans?
Une partie de la population étant donné que c'est des partis politiques qui vont aux élections. Et chaque parti politique a ses militants. Et ces militants de chaque parti politique sont accordés aux idéologies de leur parti politique et sont allés voter. On a convoqué le corps électoral, mais en quelque sorte, ce que nous, on peut faire comme analyse, c'est le corps de chaque parti politique, des partis politiques représentatifs qui ont été vraiment convoqués. Parce que à un 36%, même pas 50% des Béninois pour aller voter, c'est un peu chose là, c'est un peu aberrant, c'est un peu... Puisque nous avons déjà constaté depuis les élections en 2019 ce qui s'est passé, tout ça là, nous avons vu que le taux de participation depuis ces élections étaient toujours à la baisse et sont comme ça. Et c'est un peu regrettable. Et moi, déjà, je peux déjà donner mon avis par rapport à ça. Il faut que, lorsque la loi fixe 20% pour les partis politiques, nous devons aussi fixer un pourcentage pour dire, bon, si on va aux élections à tel pourcentage, l'élection est réussie, à tel pourcentage, on reprend. Comme ça, ce serait vraiment justice pour la nation, parce que toute la nation n'a pas été votée. Parce que ce n'est pas par rapport à la population béninoise, c'est par rapport aux inscrits sur la liste électorale. C'est par rapport aux inscrits. Par exemple, moi, dans des bureaux de vote où il y a 500 et quelques personnes, c'est seulement 100. Ou 126, 100 et quelques qui sont allés voter. Et quand on voit ça, ça veut dire qu'il faut quand même une remobilisation électorale, une remobilisation de la population pour, puisque voter, c'est aussi un droit citoyen. Et si les gens n'arrivent pas à manifester leurs droits, Je pense qu'il y a un problème.
Donc, ça veut dire, vous, acteurs de la société civile, vous pensez comme Edgar Sejuro qu'on on a ôté à certaines parties de la population ou à certains citoyens le droit de vote ou on se contente seulement sur la liste ou sur les listes qu'on révise.
Ah oui, on n'a pas ôté. Mm-hmm. Mais la plupart des Béninois ne sont pas allés manifester leur désir en termes du choix de leur responsable, de leur responsable. Et imaginez, nombre d'inscrits 7,834,608. Nombre de votants 2,877,000. C'est impossible. Vous savez, les gens aujourd'hui sont élus. Bon, d'abord, résultat provisoire.
Provisoire.
Sont élus dans la légalité. Mais il y a la légitimité. Quand il y a la légalité, il faut travailler pour la légitimité. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons des députés élus par un tiers. Presque un tiers des Béninois. Et les deux tiers autres. Vous voyez, ils ne sont pas représentés. C'est vrai que la loi, on dit, c'est un droit, le vote c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, les 7 millions 800 et quelques là, sont-ils vraiment tous aptes mm-hmm. pour élire? Non. Les gens seraient déjà morts, les gens auraient déjà voyagé, d'autres insultes par diverses
c'est
raisons.
Le président
c'est ça,
a tenté
par diverses raisons. C'est pour ça que quand je dis, allez voter, il faut que ça soit manifesté mmh. individuellement.
Donc vous souhaitez que désormais qu'on améliore plus les choses.
Parlé de réforme. Mmh. Oui, quand vous faites une réforme, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer. Et je dis, qu'est-ce que soit ce qu'on va faire au Bénin. Si on n'appelle pas les gens, dit venez vous inscrire pour la liste électorale. Parce que si je m'inscris et que je détiens une carte d'électeur, je me vois obligé d'aller voter.
C'est ça.
Vous voyez, ici on laisse les gens, les gens sont pas, c'est les peu de gens que les partis ont pu mobiliser qui sont allés voter. Et je vous dis, contrairement à ce que dit monsieur Sergio, ce ne sont pas des militants. On n'a pas de militants au Bénin. Mmh. C'est ceux à qui on a fait la propagande, la campagne, et dans l'euphorie, ils sont sortis.
D'accord. On a voté. On connaît quand même pour l'heure les résultats provisoires. Et ceux-là qui vont siéger à l'Assemblée nationale pour le compte de la 10e législature. Par surprise, on constate que l'UPR et le BR remportent l'ensemble des 109 députés. Ça vous dit quoi, Edgar Sejuro?
Je pense que ce n'est pas pour moi une surprise. C'est pour moi vraiment un processus. Pourquoi? Parce que vous savez le nombre de partis politiques que nous avons. Et combien de partis politiques ont connu vraiment des déboires pendant la préparation des élections. Donc, par rapport à tout ça, et qu'on voit par rapport aux réformes, je reviens à ça, qui fixe 20% par circonscription électorale. 20% par circonscription électorale. Je pense que parmi les partis politiques, il y en a qui ont obtenu au moins 20% dans les conditions sur les 24 échoués. Même à 19, même à 23 échoués. Vous voyez que c'est pour vous dire tout simplement que la loi, c'est la loi et il faut vraiment respecter la loi. Et je pense que la loi a été respectée pour pouvoir donner vraiment et ce quota que vous êtes en train de voir. Donc, ce n'est pas une surprise. C'est déjà transcrit, c'était déjà inscrit quelque part que c'est 20% par ces conditions et 10% sur le plan national si vous avez un accord parlementaire. Un accord entre partis politiques, pour être plus clair, de gouvernance entre partis politiques. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux partis ont réussi à avoir cet accord, ont réussi à lever les 109 sièges facilement selon les réformes et la loi. Sans embâcher, puisque c'est ça. Vous avez vu que pour donner les résultats, On a pris un peu de temps parce que on n'avait même pas déjà expérimenté ces calculs avant. C'est maintenant qu'on s'est assis pour dire, bon, voilà, on a tracé par-ci pour nous donner ce qu'on, le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, le résultat reflète ce qui a été inscrit dans le code électoral.
Sylvain Segla, acteur de la société civile, ça vous dit quoi, vous autres, par rapport à ces résultats provisoires qui donnent gagnant les deux partis politiques de la mouvance présidentielle?
Oh oui, et vous savez, en politique, la politique d'abord, c'est un jeu. On appelle jeu politique. C'est un jeu où il faut s'attendre à tout. Vous savez, la loi a prévu 20% par circonscription électorale. Cette même loi a prévu accord de gouvernance. C'est pour parler à ça. C'est pour... C'est que politiquement, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de blocage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les partis puissent être présents à l'Assemblée?
Donc, si on n'avait pas fait cet accord de gouvernance-là, on risque d'avoir un seul parti politique à l'Assemblée nationale?
Non, je... Non.
Non, c'est une question que je vous pose.
Et oui, c'est oui, justement, est-ce
exactement.
Que...
Parce que c'est, on ne va pas nous dire que... l'UPR et le BR, ou soit le BR a eu pratiquement les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. On peut l'estimer comme ça, ou soit l'UPR n'a pas eu les 20% à travers voilà. Toutes les circonscriptions bon, électorales. Si maintenant, s'il n'y avait pas cet accord de gouvernance,
si
là,
on estime comme ça, on estime. Ça veut dire, si on estime que BR ou UPR, il y a un d'entre eux qui n'a pas 20% quelque part, ça veut dire que. Et l'accord de gouvernance a joué sa partition. Vous voyez. Donc, alors que des partis avaient fait, Moël Bénin et FCBE avaient des accords, mais par manque de 10% national, ils ont été exclus pour lever des sièges. C'est la loi. C'est la loi votée et contrôlée par la Cour constitutionnelle, promulguée par. Le chef de l'État, ça la rend exécutoire. C'est une expérience, c'est une première expérience qu'on a eue, qu'on a faite. Je pense que d'ici 7 ans, on verra, on va évaluer et voir les tenants d'aboutissement. Parce que aujourd'hui, on peut dire que notre assemblée regorge aujourd'hui que des partis de la mouvance. On peut le dire. Dessus. On peut le dire aujourd'hui, mais tout, on ne sait pas ce que ça va dire demain.
On a constaté que les démocrates ont fait quand même fort, 16,14%. On ne les attendait pas à cette hauteur-là, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui a été leur force, Sylvain Segla?
D'abord, je vois que les démocrates ont été un parti qui a connu beaucoup de difficultés. Il faut le dire. Parce que, vous savez, vous êtes minoritaire à l'Assemblée. Mais quand on est minoritaire aussi en politique, il faut savoir jouer. Ils ont eu tout. C'est-à-dire que c'est un parti où, là où il devait être plus resserré, plus surveiller les rangs et autres, c'est en ce moment qu'il y a eu division. Ou si ça, son parti. Politiquement, je peux l'analyser. Le parti LD a refusé de faire accord de gouvernance avec n'importe quel parti, parce que tous les autres partis sont de la mouvance, disons. C'est normal, nous sommes de l'opposition, vous êtes de la mouvance, comment on peut faire accord? Mais politiquement, la politique étant ce que vous savez ici, la couleur c'est vert, c'est le vert ici. Mais l'opposition est prêt à te dire que c'est blanc, à te le démontrer. Donc, ils n'ont pas fait. Et c'est en ce moment qu'il y a eu la division encore. Les autres, les 6 qui sont partis, moi je peux estimer qu'ils ont fait des accords de gouvernance individuels. Vous voyez, ils sont aujourd'hui à l'Assemblée. L'essentiel, c'est de tout faire, accepter quelque part et avoir d'abord le pouvoir. Dès que vous avez le pouvoir, vous allez les laisser. Aujourd'hui, ils sont exclus. Si ils n'avaient pas de problème, et ils allaient aux élections sans problème, avoir 16% et 20% dans 11, ah, attention, ils pouvaient faire le jeu. Si ce n'était pas la loi. Ça veut dire, l'ancienne loi, c'était 10%. Ça veut dire qu'ils allaient décrocher encore des choses. Mais là, maintenant, on peut parler de la prouesse, les deux parties là. En nous disant qu'ils sont, moi je dis, même père, mère, différentes. D'accord. Mais est-ce que tu as vu ce qui s'est passé sur le terrain pendant la campagne?
C'était dur.
Attention, les deux parties sont rentrées dedans. Ça n'a pas été facile.
Ils ne se sont pas fait de cadeaux.
Pas du tout.
Allez, Edgar Sadiro, les démocrates qui ont quand même glané des suffrages, mais qui n'ont le parti qui n'a pas réussi à avoir les 20% comme on le souhaite dans les 24 circonscriptions électorales. Par contre, est tombé simplement.
Malgré tout ce qu'ils ont grané, ils ont échoué. Les démocrates ont échoué tout simplement parce que la loi dit 20%, ils ont 16%. Ça ne marche pas. Et je pense très bien que le chef de l'État sortant, excusez-moi, ainsi, les a déjà avertis. Il leur a déjà tendu la main, leur a dit, allez faire accord de gouvernance. Et c'était à eux de jouer ce jeu-là parce que, à défaut de consensus national, à défaut de réunir encore la classe politique et revoir tout à zéro et reprendre, le chef de l'État leur dit, moi je suis partant, venez ensemble avec nous pour qu'on puisse s'entendre sur les béabas. Mais ils ont refusé la main tendue du chef de l'État. Voilà les conséquences. On a dit 20% par circonscription, 10% sur le plan national. Si vous avez accord de gouvernance, au moins ils ont atteint les 10%. Mais ils ont échoué parce qu'ils ont refusé entre-temps la main tendue. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui a causé l'échec de LD. Et même s'ils sont à 99,99%, ils échouaient. Personne ne va aller parce que, vous savez, le président de la Sénat était clair. Les élections se gagnent sur le terrain et non à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle. Ils allaient gagner sur le terrain. Sur le terrain, avant les élections, le président était là, le président d'honneur était là, et il se voyait, il se parlait, dit, mais si vous ne faites pas ça, attention, hein, moi, tout prête à me dire que il y a des intellectuels dans ce parti politique qui n'ont pas bien pesé vraiment cette loi et marché là-dessus pour dire, voilà l'objectif. Vous voyez, quand il y a une épreuve, il y a deux barèmes. La première question est notée sur, la deuxième sur, jusqu'à ce qu'on retrouve les 20 points. Si vous banalisez la première question, vous banalisez la deuxième question et vous répondez à la troisième question et que vous n'avez pas, qui on va accuser? Ils ont échoué.
D'accord.
C'est tout.
Alors, ils ont échoué, oui.
Surtout que nous sommes ici en politique.
Voilà.
En politique, il n'y a pas d'ennemi. Il peut y avoir d'adversaire. Nous sommes en politique. Qu'est-ce qui coûte au LD de faire un accord avec UPR, BR, et chacun doit rester. Est-ce que quand BR et UPR sont en accord de France, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé sur le terrain?
Oui.
Ouais, chacun a levé.
De cadeau. Allez, à l'heure actuelle, ce sont des résultats provisoires.
Oui.
Quel parti peut-on considérer comme le parti le plus fort du Bénin à l'heure actuelle entre l'UPR et le BR? On a constaté qu'en 2023, l'UPR a réussi à lever 53 sièges, BR 28 sièges. Aujourd'hui, LD n'est plus là-dedans. Ça a permis au Bloc républicain d'avoir 49 sièges. Et l'UPR 60 sièges. Quel est, selon vous, le parti le plus fort? Est-ce que l'on parlera de l'UPR ou bien du Bloc républicain?
Malgré
vous comprenez ma question?
Je comprends bien votre question. Malgré ce résultat, nous ne pouvons pas encore considérer parti fort ou parti faible. Puisque c'est comme un match. C'est la fin qui justifie vraiment si on est fort ou pas. Voilà aujourd'hui que ces deux partis politiques ont été cochés jusqu'aujourd'hui par le chef de l'État actuel en place, qui veut déjà quitter le pouvoir. Nous allons voir après le chef de l'État que deviendront ces deux partis sur le terrain, sur leur terrain, et évaluer en son temps. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de parti fort ou de parti faible, parce que aujourd'hui, c'est la loi qui est forte. C'est la loi qui a marché. C'est la loi qui a donné ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas les partis politiques qui ont donné cela. C'est vrai sur le terrain. Ils se sont vraiment bataillés. Ils se sont vraiment accrochés. Ils se sont dit des choses malgré qu'ils sont comme ça. Donc, quand le chef de l'État, celui qui est leur conciliateur aujourd'hui, je le dis comme ça, hein, permettez-moi de le dire très vaguement comme ça, en tant qu'innocent, je le dis comme ça, leur conciliateur, lorsqu'il va partir, qu'est-ce que ces partis politiques vont devenir sur le terrain?
Certainement, quelqu'un deviendra opposant.
Je ne pense pas, parce que vous avez, c'est la politique, c'est un jeu politique. Nous ne savons pas quelle est la force politique de celui qui est à venir au pouvoir, comment il va décider des choses et comment le temps va jouer sur ces choses. Parce qu'il y a aussi le temps qui joue sur les choses. Lorsque vous décidez de quelque chose, il y a aussi le temps qui rattrape parfois la chose et qui donne autre tournure à cette chose.
Edgar Sedro, oui. C'est bien. Eh bien, on ne peut pas, pour l'heure, dire qu'il y a un parti plus fort que
d'autres. Oui, attendez, on peut le dire en termes de chiffres. Le nombre de votants pour l'UPR. L'UPR a eu plus de votants plus que BR. D'accord. Aujourd'hui, sur le plan politique,
il est plus assis au plan national que l'autre.
Donc, le parti le plus fort au Bénin aujourd'hui, on peut dire que c'est l'UPR. Mais je vais analyser. Mais le parti qui a progressé entre les deux, c'est le BR. Vous savez pourquoi? Les LD ayant laissé 28 sièges en rade, combien l'UPR, le parti entre griffes, le fort, a eu parmi les 28? 7. Par contre, le BR a levé 21 des 28 sièges des LD. C'est le parti qui a le plus progressé. Avant la campagne, avant la période électorale, le président Diogbenou de l'UPR a vraiment travaillé dans tout le Bénin. Il a circulé dans tout le Bénin plusieurs fois. Mais on voyait moins le président du BR. Parce que lui, il est ministre du gouvernement. Oui, c'est ça. Donc, il n'est pas libre. Mais les résultats, vraiment, quand j'ai vu, j'avais 28, tu avais 53, on nous envoie 28 et sièges à bataillez-vous.
Vous ne bataillez
ça. J'ai eu 21. Je suis le plus rusé. Ça fait un. Deuxième chose. La non-considération des FCBE, parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil de 10% pour lever des sièges, ça a favorisé plutôt le BR. C'est la forme de calcul qui a donné ça. Ça a favorisé le BR. S'il y avait un troisième parti qui avait 10% et qui était dans l'accord de gouvernance, je pense que ça va peser plus sur les 49 du BR. Donc, pour résumer, le parti fort aujourd'hui, parce que nous sommes en politique où c'est la représentation à l'Assemblée qui détermine la force d'un parti politique, et c'est l'UPR.
D'accord. On retrouve également les femmes bonus, comme on aime les appeler. Femmes bonus, 16 de l'autre côté, 8 de l'autre.
Non, je n'aime pas. C'est clair, Sylvain n'a jamais aimé qu'on traite ces femmes-là de bonus. La loi ne le dit pas comme ça.
Ben,
non. Siège réservé aux femmes. Il faut se batailler, tout faire pour que son parti soit premier dans la circonscription. Ce n'est pas facile aussi. D'accord, premier. Des gens ne sont pas, leur parti ne sont pas premiers ou bien n'est pas premier, mais ils sont députés. Malgré que leur parti soit deuxième. Vous voyez une femme qui se bat. Bonus là, c'est comme si on n'a rien fait, on dit prends.
D'accord. Elia Sadjo, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange ce matin. On revient dans la cinquième circonscription électorale. On constate qu'ici, le BR, cette fois-ci, a réussi à décrocher deux sièges comparativement à l'année 2023. Est-ce qu'a dit que le BR a tapé fort cette fois-ci dans la cinquième?
Je pense que l'analyse a été déjà faite par mon vis-à-vis, parce que les autres ont laissé leur voix. Oui. L'autre ravissant a déjà ravi tout ça. Donc, il n'est pas, et je dis que c'est la loi. Quel que soit le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est la loi qui leur donne ce résultat. Quand vous parlez tout à l'heure de femme bonus, mais mon vis-à-vis refusait cela. Non, ce n'est pas femme bonus, c'est la loi. Parce que on voulait la parité. On voulait que les femmes aussi soient représentatives. Alors la loi a exigé à ce qu'on ait dans chaque situation des femmes. Et au cas où le parti politique remporte là, qui est premier, c'est sa femme qui sera première dame. Donc nous avons des femmes premières dames. Et députés, donc nous allons leur dire seulement bravo parce qu'elles ne sont pas restées les bras croisés pour le faire. Parce que moi, j'ai déjà fait beaucoup cette lutte avec les associations Rifonga et consorts pour que les femmes soient vraiment représentatives. Et si aujourd'hui, on a 16 du côté de BR, et du côté de UPR et 8 du côté de BR, on peut se dire, bon voilà, Eureka, ça évolue un peu et je pense que il faut que ces femmes-là restent fortes dans la bataille pour être plus représentatives plus tard dans les prochaines échéances. Parlant vraiment de la cinquième circonscription, vous voyez ce que ça a donné. Je dis, c'est la loi. Il faut, lorsqu'il y a une loi, il faut l'étudier. Il faut l'examiner et il faut savoir l'aborder pour pouvoir bénéficier de cette loi. Merci.
Merci à Edgar Sedro. Sylvain Segla, cinquième circonscription électorale, ça vous dit quoi? On a constaté que au niveau de l'UPR, ça a fléchi un peu. 4 en 2023 avec femme bonus 5. Et cette fois-ci, c'est 3 femmes bonus.
Non. Non. Et l'UPR avait 4.
Oh.
Il y a 6 sièges en jeu.
Ah, voilà.
Dans la cinquième.
Oui,
moi, je veux pas parler en termes de 5 et 1.
Oui,
il y a 6 sièges, selon la loi, en jeu dans notre circonscription, où l'UPR avait levé 4. L'UPR a gardé. Et comme je l'avais dit, c'est que le BR a pris la place, le siège des démocrates. Quand tu n'es pas dedans, là,
tu n'es pas dedans.
On dit. Et pour être là où on va partager là, il faut avoir 20% partout. Tu ne l'as pas. Encore que ça là, on va revenir sur ça. Parce qu'il faut faire une analyse vraiment politique et sociologique même de cette discussion de la loi de 20% partout. Vous savez, ça peut être transitoire. Ça peut être transitoire. Vous savez, cette loi, l'avènement de cette disposition, c'est après l'échec de la révision de la Constitution. Oui, les démocrates avaient utilisé leur droit pour dire pour blocage. Ils avaient la majorité de blocage. Ils l'ont exercé selon la loi.
La loi. Allez.
Et voilà ce que la loi a.
Sylvain Segla, merci. Vous êtes acteur société civile. Edgar Sadjo, merci à vous autres analystes politiques. On connaît désormais les résultats provisoires des législatives du 11 janvier 2026. C'est parti, ça se dessine progressivement. La configuration politique de l'Assemblée nationale 10e législature, tout sera fait pratiquement dans les heures à venir. On croise les bras, on observe la Cour constitutionnelle et on n'a pas l'après. Arnaud Agbozo, Guillaume Agbopela, merci à vous, à très vite.